IDFM Radio, le média valdoisien.
IDFM Radio, il est l'heure d'accueillir maintenant vos invités du jour avec notamment Luc Mariani. Bonjour Luc.
Bonjour Christophe.
Qui continue à faire de la radio juste à côté, oui. sur une autre radio du Val d'Oise RGB.
Absolument.
Avec différentes émissions, notamment Absolutely Live ou encore Le Temps...
À la recherche du temps présent.
Voilà, à la recherche du temps.
Et puis Sinécure aussi.
Et Sinécure un petit peu de temps en temps
aussi. Et Sinécure aussi,
ouais. Des chroniques ciné.
Oui.
Avec une équipe. Hein, vous,
oui, oui, oui.
Tu n'es pas tout seul, vous êtes plusieurs en tout cas.
Équipe de chroniqueurs avec Laurent Buvry, donc qui est mon double.
Toujours passionné autant de radio, de musique.
Hein.
Oui, la musique radio, en tout cas, c'est là depuis toujours, puisque tu as écrit aussi de nombreux articles pour différents magazines. Mm-hmm. La presse spécialisée, quand même rock.
Oui, oui, plutôt rock, oui. Et jukebox, rock. Alors à l'époque, il y avait des journaux qui s'appelaient rock, rock hebdo, rock en stock. Jukebox, qui maintenant a arrêté depuis 2 ans. L'escargot folk, le monde de la musique aussi. J'ai travaillé un peu dans le monde de la musique, etc.
Et puis psychothérapeute.
Et psychothérapeute aussi.
Aussi. C'est arrivé, je ne sais plus, après la musique. Après être pigiste dans tous ces magazines.
Oui, oui, oui.
Il y a eu un déclic particulier.
Oui.
C'est en écoutant du Pink Floyd.
C'est ça, ouais.
Non, je ne sais pas. Ça fait partie de tes références, Pink Floyd ?
C'est même... justement, ils ont, peut-être tu es au courant, ils ont remasterisé complètement Pink Floyd à Pompéi, qui est ressorti en disque et DVD par Stephen Wilson. Et je me disais, je vais faire justement une émission complète sur le Pink Floyd à Pompéi. Et quand j'ai vu ce film en 72, je l'ai vu quand il est sorti, je m'en suis pas remis, quoi, tu vois. Et je me disais que si j'avais un objet à emmener ou un disque à emmener ou un visuel à emmener sur une île déserte, ça serait Pink Floyd à Pompéi.
Alors, tu as plusieurs actualités, notamment un nouvel album, La Nuagique, qui est un CD et aussi un vinyle. En tout cas, le vinyle est sorti dans un premier temps et là, tu t'es décidé aussi à sortir un CD avec des plages assez planantes. Hein. On t'entend parler à quelques moments.
Hein. Oui.
Voilà.
Ouais. On l'a laissé parce que c'était... j'aime beaucoup les erreurs dans le studio comme ça. Donc, il faut dire que ce disque, on l'a fait à 2 à 50% hein, chacun.
C'est Jacques-Jean-Gérard.
Jean-Gérard, absolument, avec lequel je fais des projets depuis 2007. Et je suis revenu à la musique en 2007. Et depuis, on a fait une quinzaine de projets donc avec Jacques. Donc, ce dernier album, La Nuagique. Et ce morceau, alors c'est marrant que tu soulèves ça parce que j'ai toujours aimé les choses qui s'invitaient. Si tu veux, donc on était en train d'enregistrer, puis à un moment dans l'enregistrement il avait laissé les micros ouverts, donc on était à la guitare, au clavier, et puis à un moment j'ai dit quelques mots, et quand on a réécouté c'était inclus dans la bande, et on a trouvé que ça faisait vraiment très réel, enfin, ça
c'est des plages assez planantes,
oui, oui.
C'est un peu pour méditer finalement, ça dure entre 17 à 23 minutes,
hein.
Il y a 3 ou 4 pistes et à
Absolument.
Chaque fois c'est de 17 à 23
voilà.
minutes
hein. Mais c'est pas répétitif comme Tangerine Dream que j'adore aussi. Mais il y a 5 parties dans chaque morceau et c'est un voyage, mais qui est très cohérent puisque c'est les harmonies qu'on a créées depuis la première minute jusqu'à la dernière minute. Et là, pour la première fois, donc dans La Nuagique, on a joué en direct. On a joué des guitares, les voix, les claviers, les percussions. Tout a été fait en direct. Puis après, bien sûr, il a été travaillé pendant des mois et des mois au niveau du mixage.
Et puis, une nuit spéciale se prépare aussi à la fois sur IDFM Radio et sur RGB.
Ça, je suis très content.
Parce que tu as reçu énormément d'artistes qui ont joué en live.
Je pense surtout à
Cécile Corbel, parce que moi aussi, j'ai eu la chance de la rencontrer, de la faire venir avec sa harpe. On va parler de tout ça dans un instant, mais tu es aussi venu avec une amie qui travaille un petit peu dans le même milieu que toi.
Elle est psychothérapeute également.
Ruby Charel, consultante et formatrice en analyse transgénérationnelle.
Connue plus communément sous le terme de psychogénéalogie, mais pour moi c'est psychologie et généalogie, et c'est la fusion des deux. Donc ça demande quand même un travail très précis entre l'un et l'autre.
La généalogie, du coup, vous travaillez avec quoi comme outil ?
Alors, je travaille essentiellement avec une méthode que j'ai mise au point durant 30 ans, à partir du questionnement de la personne. On est plus sur une approche socratique, c'est-à-dire l'esprit Socrate, en quelque sorte, c'est-à-dire comment la question de la personne ouvre un autre champ de questions possibles, plusieurs questions possibles. Et la méthode que j'ai mise au point, c'est vraiment l'analyse du mot, du verbe, en lien avec les espaces généalogiques, c'est-à-dire les liens familiaux, branches maternelles, branches paternelles, les lignées de femmes, les lignées d'hommes, les lignées de pères, les lignées de mères. Donc j'ai mis au point cette méthode, c'est un décryptage en quelque sorte. À partir du discours de la personne, il y a ce décryptage qui mène jusqu'aux racines de l'arbre. Voilà.
Et vous pratiquez principalement dans le Berry ?
Je pratique aussi sur Paris.
Parce que vous habitez où exactement ?
Alors, j'habite en Berry, dans le pays de George Sand. Donc, ce qu'on appelle aussi la terre des écrivains. Donc, ça, j'aime bien.
Et, vous aimez vous-même écrire ?
Et j'aime beaucoup écrire, puisque je suis également biographe dans ma deuxième partie d'activité.
Ah, vous avez sorti donc quelques livres ? Non ?
J'ai écrit des livres pour les personnes.
Pour les personnes.
J'ai un livre en cours, mon propre livre, mais ça, c'est encore une autre affaire, puisqu'il est en cours. Et pour l'instant, j'écris essentiellement des biographies pour les personnes et notamment la biographie des artistes et donc aussi de Luc Mariani.
Oui, donc je me suis prêté à l'expérience de ma biographie qu'elle est en train de réaliser et qu'on travaille depuis quelques temps maintenant.
Donc vous aussi un peu passionné de musique, comme tout le monde de toute façon, vous en avez beaucoup écouté.
Passionné de musique depuis l'âge de 14 ans, hein, 13-14 ans, avec... dans la famille, hein, la découverte de beaucoup d'instruments, de musique et bien sûr j'aime beaucoup de choses, ça peut être de la musique répétitive comme le rock progressif, on passe de King Crimson à Genesis ou bien encore à Terry Riley.
C'est pour ça que vous entendez bien du coup.
Voilà, donc pour moi la musique c'est très 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 important, voilà. Et l'écriture en musique aussi, je trouve que la musique est inspirante, elle porte l'esprit. Et puis, je suis passionnée aussi du processus intérieur de l'artiste. Et dans l'écriture biographique, je mets l'accent sur écrire pour l'artiste, sur son processus intérieur en lien qui génère la production, qui génère la production d'écrit, ses réalisations. Qu'est-ce qui sous-tend ces réalisations ? Et peut-être que justement, Luc pourra en parler précisément dans...
Et donc, du coup, dans la biographie, vous parlez à la fois de son parcours musical, vous essayez un
Bien
petit
sûr.
Peu de tout développer, comment il en est arrivé
Le parcours musical, mais qu'est-ce qui, à un moment donné, fait que, par exemple, tel musicien, tel compositeur va écrire ou composer telle musique alors, bien sûr, on peut parler... Bien sûr, il y a la créativité, l'imaginaire, l'intuition, l'inspiration, mais il y a aussi... tout ce qui a construit la personnalité de l'artiste. Donc, on va creuser vraiment dans son passé.
C'est un travail psychologique. C'est vraiment un travail psychologique. Parce que ce n'est pas uniquement quelque chose, pour l'avoir vécu, que l'on raconte. Mais en racontant, ça nous remet des images en tête. En remettant des images, ça remet des souvenirs. Et dans ces souvenirs, ça déclenche des émotions agréables, mais voire aussi désagréables.
Parce qu'on peut arriver à déceler une personne par rapport à ce qu'elle écoute.
Ouais, il y a des profils, on va dire. Il y a des profils, mais c'est éviter quand même, en tout cas pour moi, peut-être de mettre une étiquette sur la personne, mais vraiment d'être en lien avec l'artiste et puis de voir vraiment qu'est-ce qui a fait que... la causalité, l'origine, le début. C'est-à-dire que ces créations ont toujours un début, un départ. Et c'est rarement dans la production, quelque temps avant la production, c'est bien avant. Ça peut être des années avant.
Dans l'enfance même.
Dans l'enfance. Et c'est toute l'histoire familiale qui vient s'inviter dans la biographie, en respectant l'intimité de chacun, bien sûr. Donc, c'est un travail très particulier.
Mais elle ne fait pas
donc
uniquement.
Pardon.
Oui. Non, je disais, elle ne fait pas uniquement du travail de biographe, de musicien ou d'artiste.
Non, bien sûr,
elle
c'est ce que j'allais dire
aussi. Personnes.
Oui.
Et les gens font vraiment un cheminement selon.
N'importe qui, moi, je peux venir vous voir.
Bien sûr.
Oui. J'ai le droit.
Voilà. Bien sûr, avec plaisir. Quand
et tu définis ce que tu veux travailler, la période que tu veux travailler, peut-être toute ta vie, peut-être. Donc, il y a des biographies qui peuvent durer un an et demi, d'autres qui sont plus courtes. Donc, elle propose différentes façons de travailler. Il y a des gens qui veulent juste peut-être relater une expérience particulière de leur vie, par exemple.
C'est des séances qui peuvent durer une heure, deux heures.
Et ça dépend, en fait, du projet.
Oui. Mais bon, en règle générale, on vient vous voir pas une seule fois.
Ah non, une seule fois, c'est pas possible.
Ça se fait quand même
sur
du long terme.
Ça se fait dans le temps. Les séances, mais tout dépend si la personne vient de loin ou pas, mais les séances vont durer quand même deux heures. Après, il y a une pause Pour Luc, par
après
exemple,
on boit
on travaille...
un coup, après on reprend.
Voilà.
Par exemple.
Voilà. Oui. On rigole un peu, voilà. Oui. On écoute de la musique, on écoute des extraits.
Luc Mariani, il y a des fois, durant tes séances, de la musique ou pas?
Non.
Non.
À moi, en tant que thérapeute, non, absolument pas. Il n'y a personne qui intervient, c'est justement la base de la psychothérapie relationnelle. Il n'y a personne qui intervient entre le thérapeute et la personne qui vient suivre une thérapie. C'est un rapport entre deux personnes, c'est une relation entre deux personnes, une interdépendance entre deux personnes. Et je dirais même plus que quand quelque chose change chez le thérapeute, quelque chose change chez le patient et inversement. Il n'y a pas de reporting, il n'y a pas de communication, il n'y a rien du tout. C'est
Mais la personne peut le proposer éventuellement ou pas? Non, c'est jamais arrivé.
Qu'elle propose, là?
Qu'elle propose éventuellement qu'on soit dans une ambiance musicale particulière.
Non, à ce moment-là, si la personne veut le faire, je lui indiquerai peut-être des gens qui travaillent en musicothérapie ou des choses comme ça. Par contre, comme je fais des émissions et que j'ai fait sur EDFM pendant plus de 20 ans, des méditations en direct, des intériorisations en direct, là, effectivement, quand je suis à la radio, je mets une musique pour faire l'interface parce que le
c'est
blanc...
Pas, c'est sûr, voilà, oui, on peut pas en radio
blanc,
faire
donc,
du blanc.
Donc, je monte la musique. Et quand je descends la musique, je parle et j'essaye de conduire les gens. Mais dans le cabinet de thérapeute, non, ça ne m'est jamais arrivé. Peut-être une fois.
Ruby, Charelle, comment vous êtes arrivée jusque-là? Quel est un petit peu votre parcours?
Oui. Alors, l'écriture, c'est...
Donc ça fait une trentaine d'années. Hein.
Trentaine d'années, c'est le travail en générationnel. À la fois, j'ai eu un cabinet de psychothérapie pendant 25 ans que j'ai ensuite fermé. Et je me suis dirigée vers l'écriture. Et la source, c'est l'écriture.
Et déjà, quand tu étais adolescente, tu avais gagné, tu m'as dit, un concours.
J'en ai gagné deux.
Voilà,
deux concours, j'avais gagné. Voilà. J'avais écrit pour un journal qui s'appelait le Berry Républicain. J'allais voir les spectacles, les concerts.
Et déjà, en tout cas, cette envie, cette passion des mots, d'écrire.
Dès l'âge de 7 ans. Dès l'âge de 7 ans. Et pour moi,
c'était la meilleure en français. Non?
Oui.
Oui.
Oui, en plus, oui.
Et fameux zéro faute.
Voilà. Et après, donc, j'ai toujours écrit. Après, donc, j'ai fait partie de... On m'a proposé, à titre gracieux à l'époque, j'avais 16 ans, donc de faire partie d'écrire des articles pour une revue. Donc, comme je disais tout à l'heure, le Berry Républicain en Berry. Et puis progressivement, j'ai avancé dans cette écriture que j'ai mise à un moment donné de côté puisque toutes ces formations en psychologie, voilà, psychanalyse. Enfin, j'ai fait beaucoup de formations. Puis après, donc, j'ai ouvert ce cabinet. Et puis, à un moment donné, il y a à peu près une dizaine d'années, quinzaine d'années, j'ai senti que l'écriture me manquait. Et je ne pouvais pas forcément associer les deux en termes de planning. On parlait de planning. Et après, donc, j'ai fermé ce cabinet de thérapie. À l'époque, je faisais beaucoup d'interventions en milieu hospitalier aussi, auprès du personnel médical, sur la question du métier. Pourquoi ce métier en relation avec son histoire personnelle?
Et la souffrance des gens.
Et la souffrance des gens. Mmh. Donc, j'avais accompagné beaucoup de personnes en souffrance aussi. Et puis aussi, parfois... J'animais aussi beaucoup de stages et je faisais intervenir différentes techniques comme la peinture, le dessin, l'écriture. Et je me suis aperçue que l'écriture faisait vraiment passer des caps. Ensuite, j'ai fait une formation, entre autres, à l'Université Lyon 2 sur le soin clinique par l'art. J'avais choisi l'écriture. J'ai fait d'autres formations en écriture, mais bon, voilà, assez longues. Et à un moment donné, c'était une évidence qu'il était important que j'aille vers cette voie et que je m'installe en tant que biographe. Voilà.
Nous sommes toujours avec Ruby Charelle et aussi Luc Mariani ce matin sur IDFM Radio. Tous les deux, vous êtes thérapeute.
Oui, on peut dire ça. Voilà, consultante.
Consultante.
Thérapeute, j'ai fermé le bureau, mais il y a toujours des entretiens en analyse générationnelle pour ceux qui le souhaitent. Voilà.
Et on parle de musique, on parle un petit peu de votre parcours. On va continuer à échanger dans un instant avec vous. Et juste avant, on va se plonger un court instant donc dans la nuagique.
La nuagique. Alors, la nuagique, c'est le terme québécois pour expliquer le cloud computing. le cloud, donc les nuages, et computing, l'ordinateur dans les nuages. Et les Québécois, bien sûr, comme ils l'ont traduit par la nuagique. Et j'ai trouvé le terme très poétique. Et bon, et se dit, c'est un peu une critique aussi, bien sûr, du cloud computing qui a tendance à enfler sur la Terre, à prendre tout. Les centres de cloud sont très, très de plus en plus importants. Et donc, revenir aux nuages, revenir aux rêves, en fait. Et c'est ce que la musique tente de développer, revenir aux nuages, revenir aux rêves, revenir au simple fait de regarder les choses sensoriellement et essayer de voir comment nous pouvons équilibrer ces écrans qui aujourd'hui sont incontournables de nos vies, mais comment nous pouvons les équilibrer, parce que sinon, si on ne les équilibre pas, ils risquent de tout bouffer, absolument toute l'énergie du monde, donc il faut les équilibrer absolument. Et la nuagique, tente avec sa musique de rééquilibrer un petit peu ça. D'où le côté planant, d'où le côté rêveur, d'où le côté aussi très mélodique, parce que c'est un disque qui est à la fois musique répétitive, musique dans la ligne de Pink Floyd, de Tangerine Dream, de Kraftwerk, mais aussi avec beaucoup d'aspects harmoniques et mélodiques travaillés dedans.
Écoutons donc un extrait de cet album sur IDFM Radio. Luc Mariani, qui a travaillé avec Jacques-Jean Gérard
oui.
Et aussi André Viau-Leblanc.
Oui, oui. Thank you.
Merci d'être avec nous toujours sur EDFM Radio. Nous sommes toujours avec Luc Mariani, qui est thérapeute, animateur radio, musicien, oui. Chanteur. Nous sommes aussi avec Ruby Charel, qui, vous connaissez Luc Mariani depuis de nombreuses années.
Oui,
parce que vous faites un petit peu la même chose. Vous faites de la thérapie, de la généalogie.
On s'est rencontrés en fait dans l'astrologie, puisque nous sommes tous les deux astrologues aussi. On était astrologues professionnels. Et on s'est rencontrés, bien sûr, en formation très tôt, à 26 ans, 27.
Il y a une quarantaine d'années maintenant.
Voilà, il y a une quarantaine d'années. On s'est retrouvés là. On a suivi pendant 4 ans des cours avec une grande astrologue qui s'appelait Irène Andrieux, qui s'appelle toujours Irène Andrieux, bon, qui aujourd'hui est une dame âgée. Mais voilà. Et on s'est rencontrés là. Puis on est tombés pratiquement, je crois, tout de suite amis, quoi. Voilà, on a été amis.
Et Ruby, vous faites toujours des interventions auprès d'hôpitaux?
Non, je ne fais plus d'intervention en milieu hospitalier. J'ai parfois de la demande pour faire des interventions auprès de jeunes. Donc j'aurai certainement un projet à la rentrée 2025, mais qui n'est pas encore finalisé, pour intervenir auprès de jeunes adultes sur toujours la question du métier. Pourquoi ce métier ? Le lien avec leur histoire personnelle, en tout cas au niveau des métiers dans l'histoire familiale. Voilà, il y a toujours cette approche-là. Je fais toujours des consultations en analyse générationnelle, beaucoup par téléphone aussi, pour ceux qui le souhaitent. Et des formations, bien sûr, auprès des praticiens de santé, y compris des gens qui travaillent, que ce soit en milieu hospitalier ou qui est un cabinet privé de thérapie. Voilà, ou des chefs de projet, ou des gens qui travaillent en ressources humaines. Et puis, par ailleurs, j'ai ce métier de biographe. Et j'ai oublié de préciser tout à l'heure que j'anime également des ateliers d'écriture, ou en présentiel ou par Zoom.
D'accord, et par téléphone, écouter les gens, c'est pas forcément quand même évident.
Alors comme ce n'est pas de la thérapie, c'est vraiment une analyse de la question avec la méthode de décryptage sur leur histoire en lien avec leur histoire personnelle individuelle et les liens familiaux en lien avec leurs questions. Donc non, c'est pas gênant puisque à ce moment-là, moi je prends beaucoup de notes, je décrypte et après j'envoie à la personne le résultat.
Luc voilà. Mariani, tu fais pas ça?
Non, mais c'est
parce que toi tu as besoin de voir les gens.
Je vois les gens et je me suis recentré surtout après toute la période qu'on a vécue du Covid et tout. J'ai toujours continué en direct. J'ai pas fait d'écran, j'ai pas fait de WhatsApp, j'ai pas fait de Zoom, j'ai pas fait de quoi que ce soit. J'ai vraiment travaillé en direct avec les personnes. Mais ce que je voulais dire, c'est en écoutant Ruby, c'est que c'est très complémentaire. Donc en fait, c'est pas la même façon d'approcher la thérapie, mais par exemple la biographie, je peux le dire, c'est une, en étant psychothérapeute et en étant maintenant à la fin du projet de ma propre biographie qui écrit Ruby Charel, je peux dire que c'est très très proche de la thérapie parce qu'on fait vraiment d'une autre façon un travail thérapeutique. C'est-à-dire toutes les personnes qui font cette approche de la biographie font un travail vraiment thérapeutique sans le savoir en fait réellement. Au début, on croit qu'on vient parler de sa vie, trouver des liens dans sa vie, trouver des fils d'Ariane. Mais petit à petit, au bout de la
un
deuxième...
Un petit peu quand même, au début, c'est ça.
Oui, voilà, voilà.
Oui.
Mais petit à petit,
parce que c'est là où c'est la généalogie, de toute façon.
Oui, aussi.
Alors en fait, quand une personne vient pour sa biographie, comme par exemple Luc, elle vient avec un projet...
Oui, donc, c'est déjà bien défini.
Avec un projet
défini.
D'écriture et non D'accord. pas d'analyse. Par contre, quand une personne dit « j'aimerais écrire le livre de ma vie », pour moi, c'est pas tout à fait ça. C'est on écrit des fragments de sa vie, ou on fait écrire des fragments de sa vie. Mais par contre, là où j'ai cette spécialisation, c'est que je fais des liens entre ces différents fragments.
Oui, oui.
Et c'est ce que j'appelle la biographie du sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne raconte un point, puis un autre, mais quel lien entre tous.
Et elle n'avait pas forcément perçu. Moi, par exemple, je vais donner un exemple très concret. Dans la biographie, je me suis aperçu que les trains, tout ce qui concernait les trains, était essentiel depuis que j'étais tout petit. J'avais eu un petit train quand j'étais tout petit.
Tu as beaucoup pris le train.
Hein oui. Et tu
absolument.
Continues de prendre le train.
Il le prend moins le train quand même.
Oui, mais on le met.
Si.
Il prend beaucoup le train quand même.
Je prends énormément le train. J'ai travaillé en tant qu'étudiant pendant 4 ans à la gare Saint-Lazare, où j'apportais les plis dans les trains. J'ai pris le transsibérien pendant une semaine et demie. J'ai fait de Moscou jusqu'à Vladivostok. Et le train a toujours été pour moi une source de rêverie et une source. Une fois que j'étais dans le train, je pouvais être complètement libre. rêver. Et puis la musique est très liée au train, parce que les trains, surtout avant,
la réflexion,
il y avait le mouvement du train, des roues. Maintenant, c'est beaucoup plus doux, mais il y avait le mouvement des roues, et ça fait un rythme qui s'accélère ou qui ralentit. Et
ça faisait mal aux oreilles à l'époque.
Ça pouvait faire mal aux oreilles, mais quand t'étais dans un train un petit peu feutré, bon, des trains de grande ligne et tout, t'avais et je chantais des mélodies sur le rythme, sur le rythme du train.
Et donc ça, c'est intéressant parce que justement dans la biographie, dans différents chapitres, il y a la présence de ce train et de l'importance du train pour Luc, et c'est là où toute cette composition entre le vécu, l'émotion, la sensation, l'inspiration, la nostalgie aussi. Bon, il y a des choses comme ça qui ressortent, et tout cela prend du sens.
Oui, et quand vous venez sur Paris, vous donnez aussi des conférences ou pas?
Pas encore. S'il y a une demande, je ferai. Voilà.
Vous avez jamais fait ça auparavant?
Paris, j'ai donné une conférence il y a longtemps, en 2014. C'était une société de coaching qui m'avait demandé de faire une intervention sur l'importance du métier, le choix du métier en relation avec l'histoire familiale. Et ça remonte à loin, c'était en juin 2014. Sinon, j'ai donné pas mal de conférences à une époque, et là, je reprends tranquillement.
Et les ateliers d'écriture, c'est plutôt chez vous, dans le Berry?
Les ateliers d'écriture, c'est dans le Berry, c'est en Rhône-Alpes. S'il y a des demandes, c'est sur Paris. Et c'est aussi des ateliers d'écriture par Zoom, mais ça, c'est encore autre chose. C'est plus des méthodologies d'écriture. Une personne qui, par exemple, veut apprendre comment structurer un écrit. Donc là, ce sont des ateliers par Zoom, pardon.
Luc, revenons sur cette nuit spéciale. On n'en a pas tellement parlé.
Oui.
Sur RGB, donc Radio Valdoisienne, en direct de minuit à 6h du matin, dans la nuit du 6 au 7 juin.
6h en direct.
Et en fait, tu t'es dit, c'est dommage, j'ai beaucoup d'archives, j'ai fait énormément d'émissions à la fois chez nous, à l'époque c'était Radio Anguin. Ensuite, tu es venu un petit peu au début, quand nous avions changé de nom avec IDFM Radio. Ensuite, tu es parti pour rejoindre cette autre radio valdoisienne. Et tout ça t'a amené à enregistrer énormément de prestations live, d'échanger avec beaucoup d'artistes.
50 artistes, plus de 50 artistes qui vont être présents. Il y a tous les lives qu'ils ont joués. Alors, il faut dire sur ces lives, c'est
impressionnant. Des fois, c'était pas forcément des lives d'une heure, c'était des...
Ça pouvait être live,
mais entrecoupé d'interviews.
C'était
pas un live non-stop.
C'est pas un concert complet, si tu veux. Mais il y a eu des concerts complets. Alors, des grands artistes sont passés, Moriarty, June Lelula, Cécile Corbel. Il y a eu le duo Ormet aussi, qui est un duo de l'Est, médecin qui est fabuleux, de Metz, de la région de Metz. Et alors, ce qui m'a amusé, c'est que l'émission a été créée sur IDFM en 2005. J'ai arrêté en 2015, donc Absolutely Live. Je l'ai repris en 2015 sur RGB, et on est en 2025. Donc ça fait 10 ans d'IDFM, 10 ans exactement, jour pour jour pratiquement.
Mais plus avec nous, puisqu'effectivement tu as démarré, on peut le repréciser, dans les années 90, au début des années 90, avec ta première émission À la recherche du temps présent.
Absolument.
Voilà, c'est Luce et Jacques que tu as rencontré, les dirigeants, les créateurs de cette radio, qui t'ont donné l'opportunité, possibilité de faire cette émission.
Je les remercie.
Surtout en soirée, c'était
C'était de 20h à 22h. Ouais, de 20h à 22h. Et ça a été vraiment une expérience absolument incroyable. Et c'était la liberté, justement, de cette radio IDFM et de RGB aussi. J'ai retrouvé cette même liberté. Et c'est les deux grandes radios du Val d'Oise, on va dire. Et je suis très content que les deux soient associés.
Que cette nuit sera diffusée ensuite dans la nuit du vendredi 20 au samedi 21 juin.
À la fois sur IDFM et à la fois elle sera rediffusée.
Elle sera rediffusée aussi
sur RGB.
Sur RGB 99.2.
Et il y aura un concert aussi, parce que je me suis dit...
Oui, c'est vrai, il y aura aussi une invitée spéciale du coup.
Une invitée spéciale qui est déjà venue nombreuses fois, qui est une fille absolument incroyable, une folkeuse anglo-française, Julie Givens, Juju Vagabond, son nom, que tu pourrais d'ailleurs recevoir. C'est une fille qui fait elle est incroyable. C'est une guitariste hors pair, aussi bien électrique que acoustique.
Et elle vient d'où?
Elle est dans la région du Nord, là. Elle habite exactement dans la région du Tréport.
D'accord, très bien.
Voilà. Et là, donc, elle va venir. Alors, je me suis dit faire une émission sur 6 heures en direct sur que les artistes qui sont venus jouer en direct sensoriellement dans l'émission et ne pas faire un petit bout de live et ne faire que du podcasting dans l'émission. Donc, elle viendra entre 2h et 3h du matin faire un petit concert en plein milieu de l'émission. Je suis très
content. Ça représente 6 heures d'émission, ça va faire 50.
Oui.
50 artistes à peu près.
Ouais, un morceau par artiste, mais j'ai tous les concerts complets de chaque artiste sur IDFM.
Oui,
et
donc
sur
il
RGV.
A fallu quand même faire sélectionner. Une sélection.
Et là, ce que je dis, ça sera très intéressant parce qu'en plus, les gens qui aiment tous ces artistes-là, ils diront, oh bah oui, mais moi j'ai le disque dont je vais pas aller écouter. Non, non. Ils ont fait des reprises, des Beatles, des reprises de Dylan, des reprises des Rolling Stones, des reprises de Queen. Et donc, on aura des reprises qui n'ont joué que dans cette émission.
Il y aura Gabriel Yacoub,
oui.
Christian Huet,
oui.
Agnès Sekaldi,
oui.
Bastien Lucas No Quarter.
Oui, le groupe de tribute de l'Exipli qui avait fait un concert fabuleux sur IDFM, fabuleux.
Et puis d'autres, hein,
oui. Il y a Faust,
Pierre Flynn, Faust.
Le groupe allemand mythique des années 70 du Krautrock, Faust, oui.
Qui Lisa fait... Delmar, qui est une artiste de la région, qui est professeure aussi d'espagnol,
Hein,
que nous aussi nous avons reçu. Mais là, Lisa Delmar, tu l'avais reçue peut-être plus sur
en
RGB.
Interview, mais
sur
elle n'a pas fait de concert. Oui, sur RGB, oui. On avait fait toute une interview avec Lisa Delmar, produite par Michel Eyan, qui est aussi un grand musicien du Val d'Oise, Michel Eyan, que tu as reçu d'ailleurs une ou deux fois.
Tout à fait. Bah, très bien. Bah, merci beaucoup à vous deux de venir. Et puis cette nuit,
merci,
tu fais en direct. Ça tombe bien parce que, je ne sais pas si tu le sais, mais les 5 et 6 juin, ça a été initié depuis quelques années. C'est la fête de la radio, donc la fête de toutes les radios.
Formidable.
Ah bah écoute, alors là tu vois, c'est
et donc il y a plein d'initiatives à travers toute la France où les radios ont joué le jeu en diffusant en direct des artistes live, en proposant des émissions d'archives. C'est les 5 et 6 juin.
Bah oui, puisque, alors c'est marrant, j'ai pas fait le rapprochement.
Tu l'as pas voulu, mais c'est comme
mais
ça.
Le directeur de RGB m'a demandé
qui est Jean-Céric, qui est le nouveau directeur, parce qu'il y a un président et un directeur.
Absolument, Damien Morel qui est notre président et Jean-Céric qui est le nouveau directeur, absolument.
Donc je suppose que si on fait une autre émission juste derrière, tu aurais des tonnes et des tonnes de choses à nous raconter, d'anecdotes et ta passion pour la radio.
Ah, oui, oui.
Une question quand même à vous, Ruby.
Oui.
La radio, est-ce qu'elle a eu quand même une importance spécifique et particulière dans votre vie?
Oui, toujours, bien
aujourd'hui,
sûr.
Aujourd'hui, hier quand vous étiez plus jeune.
Que ce soit des émissions culturelles et bien sûr la musique, toujours. Donc ça a eu une importance forte.
Eh ben merci
entre radio et vinyle, et merci Christophe.
Merci encore Ruby Charel.
Aussi.
Bon retour dans le Berry.
Oui, merci.
Et Luc Mariani, bon retour là, au bout de la rue, presque.
Presque au bout de la rue, à 600 mètres.
Voilà, un Valdoisien depuis presque toujours, depuis de nombreuses années.
Ah, depuis ma naissance.
Et on reprécise donc cette nuit spéciale du live, durant 6 heures sur RGB, dans la nuit du 6 au 7 juin.
Oui, oui.
Rediffusée sur IDFM Radio dans la nuit du vendredi 20 au 21 juin, et aussi en même temps.
En même temps,
sur
simultanéité,
RGB.
C'est la première fois, je crois, que les deux radios vont faire quelque chose en simultanéité. Je suis très content.
Eh bien, c'est très beau. À bientôt. Bonne journée à vous deux.
Oui, merci,
et grand merci, Christophe. Merci.